a chuté. Les Anglais vont au Pays de Galles ce samedi. Les Irlandais en Italie. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne journée à l'écoute de RFI.
Radio G 101.5 FM. Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie,
poétesse et universitaire, dont nous avons choisi de vous donner le témoignage.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Les femmes en avaient payé le plus lourd tribut. Le cas de Yissou.
Pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent terrible.
Je vous ai choisi un extrait du chapitre 9, intitulé.
Assise près de l'incubateur. Espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du XXe et du XXIe siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Bonjour. Le journal d'Anne Frank, tout le monde le connaît, ou croit le connaître. C'était d'ailleurs aussi l'opinion de Lola Lafont, autrice de « Quand tu écouteras cette chanson », parue chez Stock en août 2022. Anne Frank, née le 12 juin 1929, est morte entre fin février et début mars 1945, au camp de Bergen-Belsen. Elle a consigné dans son journal trois de ses anniversaires, celui de ses 13 ans, de ses 14 ans et son dernier anniversaire, celui de ses 15 ans. Nous aimerions rendre hommage à cette écrivaine en mettant en regard ses écrits avec des extraits du livre de Lola Lafont, au motif que cette dernière passe une nuit dans l'annexe devenu à Amsterdam un musée à la mémoire d'Anne Frank. Mais revenons au jour tranquille. La famille Frank est encore dans sa maison et Anne consigne le récit de son anniversaire dans son journal nouvellement reçu. Elle a 12 ans.
Dimanche 14 juin 1942. Je vais commencer au moment où je t'ai reçu, c'est-à-dire quand je t'ai vu sur la table de mes cadeaux d'anniversaire. Car j'étais là quand on t'a acheté, mais ça ne compte pas. Vendredi 12 juin, j'étais déjà réveillée à 6 heures, et c'est bien compréhensible puisque c'était mon anniversaire. Mais à 6 heures, je n'avais pas le droit de me lever. Alors j'ai dû contenir ma curiosité jusqu'à 7 heures moins le quart. Là, je n'y tenais plus, je suis allée dans la salle à manger, où Morge, le chat, m'a souhaité la bienvenue en me donnant des petits coups de tête. Un peu avant 7 heures, je suis allée voir papa et maman et ensuite je suis venue au salon pour déballer mes cadeaux. C'est toi que j'ai aperçu en premier, peut-être un de mes plus beaux cadeaux. Et puis un bouquet de roses, deux branches de pivoine et une petite plante. Papa et maman m'ont donné un chemisier bleu, un jeu de société, une bouteille de jus de raisin, qui à mon avis a un petit goût de vin, on fait le vin avec du raisin, puis un pulls, un petit pot de pommade. Un billet de 2 florins et demi et un bon pour 2 livres. Un livre, La Camera Oscura, mais Margot l'a déjà, alors je l'ai échangé. Un plat de petits gâteaux fait maison, par moi bien sûr, car faire des petits gâteaux c'est mon fort en ce moment. Beaucoup de bonbons et une tarte aux fraises faite par maman. Une lettre de mamie juste à temps, mais évidemment c'est un hasard. Ensuite, Anneli est venue me chercher et nous sommes partis à l'école. Pendant la récréation, j'ai offert des galettes au beurre aux professeurs et aux élèves, et puis il a fallu retourner au travail. Puis je suis rentrée à 5 heures car j'étais allée au cours de gymnastique, même si je n'en ai pas le droit parce que mes bras et mes jambes se déboîtent. Et pour mon anniversaire, j'ai choisi qu'on joue tous au volley. Quand je suis arrivée à la maison, San Lederman était déjà là, et j'avais ramené Ilse Wagner, Anneli Goslar et Jacqueline Van Marsen, parce qu'elles sont dans ma classe. Avant, Anneli et San étaient mes 2 meilleures amies, et quand on nous voyait ensemble, on disait toujours « voilà, Anne, Anne et San ». Je n'ai connu Jacqueline Van Marsen qu'au lycée juif et maintenant elle est ma meilleure amie. Ilse est la meilleure amie de Anneli et San est à une autre école où elle a ses amis. Elles m'ont donné un livre superbe, Les contes et légendes des Pays-Bas. Mais elles se sont trompées. Elles m'ont acheté le tome 2, alors j'ai changé de livre contre le tome 1. En plus, tante Hélène m'a apporté un Pulse, tante Stéphanie une adorable petite broche et tante Lénie un livre formidable, Daisy à la montagne. En prenant mon bain ce matin, je me disais que ce serait vraiment merveilleux d'avoir un chien comme Rintintin. Je l'appellerais aussi Rintintin et à l'école, je le laisserais toujours chez le concierge ou par beau temps dans la remise à vélo. C'est encore une enfant qui écrit. Cependant, une véritable écrivaine va naître, comme le souligne Lola Lafont. Ce texte, vendu à plus de 30 millions d'exemplaires dans le monde, n'est pas un simple journal intime ou un testament. C'est nier la démarche de l'autrice Anne Frank que la réduire à un témoignage, m'a dit Lowen. Anne voulait devenir écrivaine ou journaliste. Elle l'a écrit. Dans mon carnet, une ronde de points d'interrogation encercle une date soulignée, celle du 29 mars 1944. Ce jour-là, alors qu'elle vit enfermée dans l'annexe depuis l'été 1942, Anne Frank entend sur Radio Orange une annonce du ministre de l'Éducation des Pays-Bas en exil à Londres. Il demande aux Hollandais de conserver leurs lettres, leurs journaux intimes. Après-guerre, ces écrits seront autant de témoignages précieux. Cette déclaration la galvanise. Elle s'enthousiasme, en parle à son père. Son journal pourrait être publié un jour. Elle se met aussitôt à le retravailler. Elle quitte le ton spontané des premières pages, en parfait le style. Elle rédige un prologue, supprime des passages qu'elle juge peut-être trop personnels, en étoffe d'autres. Elle décide d'utiliser des pseudonymes, faisant des occupants de l'annexe qu'elle croque parfois vertement, des personnages. Elle choisit une forme narrative particulière, s'adressant à une amie imaginaire, Kitty, héroïne de romans pour la jeunesse dont elle raffole. Elle décrit minutieusement l'annexe, pièce après pièce, et précise le contexte historique. Elle revient sur une phrase, questionne la pertinence d'un chapitre, écoute le rythme d'un paragraphe, passe d'un ton introspectif à des réflexions plus politiques. À compter de ce jour, Anne Frank n'est plus seulement une jeune fille qui tient un journal. Toutes ses décisions sont celles d'une autrice qui pense à de futurs lecteurs. Si elle a commencé à écrire sans intention de se faire lire le 12 juin 1942, à compter du mois de mars 1944, elle dit « je ». Mais elle commence à penser à « nous ». Elle en est persuadée. Son texte saura trouver le futur. Il viendra nous chercher. Aujourd'hui, il est venu me chercher. Comment l'appeler ce récit que je ne me décide pas à relire avant ma nuit dans l'annexe? Ce livre est un décompte auquel nous assistons. Nous en redoutons l'issue. Nous savons qu'après le 4 août, date de l'arrestation des Francs, il n'y aura plus de mots. Ce livre, nous en connaissons la fin. L'autrice, elle, l'ignore. Un mois après l'anniversaire d'Anne, le 9 juillet 1942, la famille Frank est contrainte de s'installer dans l'annexe. Vendredi 21 août 1942. Chère Kitty, ça y est, notre cachette est devenue une cachette digne de ce nom. En effet, M. Kugler a jugé plus prudent de mettre une bibliothèque devant notre porte d'entrée, parce qu'on fait de nombreuses perquisitions à la recherche de vélos cachés. Mais naturellement une bibliothèque pivotante, qui peut s'ouvrir comme une porte. C'est M. Voschkuis qui s'est chargé de fabriquer l'objet. Nous l'avons mis au courant des 7 clandestins, il est le dévouement personnifié. Maintenant, pour descendre, nous sommes d'abord obligés de baisser la tête, puis de sauter. Au bout de 3 jours, nous avions tous le front couvert de bosses parce que tout le monde se cognait à l'encadrement de la porte basse. Peter a essayé d'adoucir le choc en y clouant un morceau de tissu rembourré de laine de bois. Espérons que ça marchera. Je n'apprends pas grand-chose. J'ai décidé de me mettre en vacances jusqu'en septembre. Ensuite, papa veut me donner des leçons, mais il nous faudra d'abord acheter tous les livres de classe nécessaires. Notre vie ici ne connaît pas beaucoup de changements. Aujourd'hui, on a lavé les cheveux de Peter, mais ça n'a rien d'extraordinaire. Monsieur Van Dan et moi sommes toujours comme chien et chat. Maman me prend toujours pour un bébé et je ne peux pas le supporter. Mais à part ça, cela va tout de même un peu mieux. Peter ne m'est pas devenu plus sympathique. Il est ennuyeux, paraisse toute la journée sur son lit, donne 2-3 coups de marteau et retourne faire un somme. Quelle andouille! Ce matin, maman a recommencé à me faire un de ses affreux sermons et je ne le supporte pas. Nos idées sont diamétralement opposées. Papa est un chou, même s'il lui arrive de se fâcher 5 minutes contre moi. Dehors, il fait beau et chaud, et malgré tout, nous en profitons autant que possible en allant nous étendre au grenier sur le liquage. Bien à toi, Anne.
Dimanche 2 mai 1943. Chère Kitty, en pensant de temps à autre à nos conditions de vie ici, j'en arrive le plus souvent à la conclusion que, par rapport aux autres Juifs qui ne se cachent pas, nous sommes ici dans une sorte de paradis. Mais que plus tard, quand tout sera redevenu normal, j'aurais du mal à imaginer que nous, qui à la maison, fûmes toujours si proprets, étions, on peut le dire, tombés si bas. Tombés, dans le sens du mot qui se rapporte aux bonnes manières. Par exemple, depuis que nous sommes ici, nous avons sur notre table une toile cirée qui, à force d'être utilisée, n'est généralement pas des plus propres. Souvent, j'essaie bien de lui redonner un peu de lustre, mais avec un torchon plus trou que torchon, et qui a été neuf longtemps avant que nous nous cachions, on n'est pas beaucoup plus avancé, même en frottant de toutes ses forces. Les Van Dan dorment depuis le début de l'hiver sur un drap de flanelle que l'on ne peut pas laver ici, parce que la poudre de savon avec ticket est beaucoup trop rare et en plus très mauvaise. Papa porte un pantalon effiloché et sa cravate présente aussi des signes d'usure. Et aujourd'hui, la gaine de maman a craqué de vieillesse et on ne peut plus la réparer, tandis que Margot se promène avec un soutien-gorge trop petit de 2 tailles. Maman et Margot ont passé tout l'hiver avec 3 tricots à elles deux et les miens sont si petits qu'ils m'arrivent même pas au nombril. Bien sûr, ce sont des choses sur lesquelles on peut passer, mais pourtant, je me demande parfois avec horreur comment nous allons faire, nous qui vivons et nous débrouillons avec des objets usés depuis ma culotte jusqu'au blaireau de papa pour retrouver plus tard notre position d'avant-guerre. Les sentiments sur la guerre à l'annexe. Monsieur Van Dan. Cet honorable personnage a, de notre avis à tous, une grande clairvoyance politique. Mais nous prédit tout de même qu'il nous faudra séjourner ici jusqu'à fin 43. C'est bien long, mais encore supportable. Mais qui nous donne l'assurance que cette guerre, qui ne cause que des dommages et chagrins, sera terminée à ce moment-là? Et qui peut nous donner l'assurance qu'entre-temps, il ne nous sera rien arrivé à nous et aux complices de notre clandestinité? Personne, bien sûr. Et c'est pourquoi nous vivons chaque jour dans une grande tension. Tension due à l'attente et à l'espoir, mais aussi à la peur. Lorsqu'on entend du bruit dans la maison ou dehors, quand il y a beaucoup de tirs et que le journal publie de nouvelles notifications, car il peut arriver chaque jour que plusieurs de nos complices soient obligés de se cacher eux-mêmes, avec nous. Clandestinité est devenu un mot tout à fait courant. Combien de gens n'entrent-ils pas dans la clandestinité? Ils ne représentent naturellement qu'un petit pourcentage et pourtant, plus tard, nous serons sûrement étonnés du nombre de personnes de bonne volonté aux Pays-Bas qui ont accueilli chez eux des Juifs et aussi des chrétiens en fuite, avec ou sans argent. Et c'est incroyable aussi le nombre de gens dont on entend dire qu'ils ont une fausse carte d'identité. Madame Van Dan, quand cette belle dame, comme elle seule aime le croire, a appris qu'il était moins difficile qu'autrefois de se procurer une fausse carte d'identité, elle a proposé immédiatement d'en faire faire pour nous tous. Comme si c'était une broutille et que l'argent pousse sur le dos de papa et de Monsieur Van Dan. Quand Madame Van Dan sort les pires énormités, Pouty saute souvent au plafond
Mais ça se comprend, parce qu'un jour, Kerli dit « Plus tard, je vais me faire baptiser. » Et le lendemain, c'est « J'ai toujours voulu aller à Jérusalem, car je ne me sens bien qu'au milieu des Juifs. » Pim est un grand optimiste, mais il a toujours de bonnes raisons à donner. Monsieur Ducel, lui, invente tout à sa fantaisie, et quand quelqu'un veut contredire son Altesse, il se fait mal recevoir. Je crois que Monsieur Albert Ducel a l'habitude de se faire écouter chez lui comme un oracle. Mais Anne Frank ne mange pas de ce pain-là. Les opinions des autres pensionnaires de l'annexe ne sont pas intéressantes. Seuls ces quatre-là comptent en politique, à vrai dire, deux seulement. Mais Madame Van Dan et Ducel estiment qu'ils ont leur mot à dire. Mardi 18 mai 1943. Cher Kit, j'ai été spectatrice d'un combat aérien acharné entre avions allemands et anglais. Malheureusement, quelques alliés ont dû sauter de leur appareil en feu. Notre laitier, qui habite Alchouek, a vu quatre Canadiens assis au bord de la route, dont l'un parlait couramment hollandais. Il a demandé du feu au laitier pour sa cigarette et lui a raconté que l'équipage de leur appareil se composait de 6 personnes. Le pilote avait été brûlé vif. Et leur 5e camarade s'était caché quelque part. La police en vert est venue chercher ces 4 hommes en parfaite santé. Comment est-il possible de garder une telle présence d'esprit après un aussi formidable saut en parachute? Bien que la chaleur soit apparemment arrivée, nous sommes obligés d'allumer nos poêles 1 jour sur 2 pour brûler nos épluchures de légumes et nos détritus. Nous ne pouvons rien jeter dans les poubelles parce qu'il nous faut toujours compter avec la présence du magasinier. Une petite imprudence assez vite fait de nous trahir. Tous les étudiants doivent signer une liste des autorités certifiant qu'ils sympathisent avec tous les Allemands et sont favorables à l'ordre nouveau. 80% d'entre eux ont refusé de renier leur conscience et leurs convictions, mais le résultat ne s'est pas fait attendre. Tous les étudiants qui n'ont pas signé doivent aller en camp de travail en Allemagne. Que restera-t-il de la jeunesse des Pays-Bas si tous doivent aller trimer en Allemagne?
Dans ce quotidien si particulier, voici la relation que fait Anne de son 14e anniversaire. Dimanche 13 juin 1943. Chère Kitty, le poème d'anniversaire que m'a écrit papa est trop beau pour que je t'en prive. Comme Pim compose en vers allemand, Margot a dû s'atteler à la traduction. Juge-toi même si Margot ne s'est pas acquittée à la perfection de la tâche qu'elle s'est imposée à elle-même. Après l'habituel résumé des événements de l'année, le poème continue ainsi. Toi, notre Benjamine, qui pourtant n'est plus une enfant, tu n'as pas la vie facile. Chacun prétend te faire la leçon souvent à ton grand âme. Tu peux en croire notre expérience. Nous savons tout, fais-nous confiance et connaissons les bonnes manières. Voilà ton lot depuis l'année dernière. De ses propres défauts, nul n'est jamais gêné. Ainsi, à ton beau jeu de te morigéner. Les fautes d'autrui, elles pèsent lourd. Et nous, tes parents, ne pouvons pas toujours trancher les différends avec sérénité. Reprendre les aînés passe pour déplacer. Est-on parmi de vieux barbons qu'il faut gober tous leurs sermons? Comme on prend une amère potion. C'est pour garder la paix de la maison. Les mois passés ici ne seront pas perdus. Toi-même, tu ne l'aurais pas voulu. Mais quand toujours on apprend et on lit, on aurait bien du mal à découvrir l'ennui. Voilà une autre question, pire tourment. Que vais-je mettre? Mes vêtements sont trop petits. Je n'ai plus de pantalon. Mon chemisier est grand comme un apron. Et mes chaussures, comme elles me blessent. Tout me torture, quelle tristesse. Oui, avec 10 centimètres en plus, rien ne vous va, bien entendu. Quant au passage sur les repas, Margot n'a pas pu le faire rimer et je le laisse entièrement de côté. Alors, il n'est pas beau mon poème? En outre, j'ai été très gâtée. on m'a donné de très jolies choses. Entre autres, un gros livre qui traite de mon sujet préféré, la mythologie de Hellas et de Rome. Je n'ai pas à me plaindre non plus de manquer de bonbons. Tous sont puisés dans leurs dernières réserves. En tant que benjamine de la maisonnée clandestine, j'ai été vraiment beaucoup plus fêtée qu'il ne me revenait normalement. Bien à toi, Anne.
Autre époque, autre confinement. Lola Lafont explique les circonstances qui l'ont conduite à passer une nuit dans l'annexe, là où Anne Frank a demeuré avec 7 autres personnes durant 760 jours. En ce mois de mai 2021, Amsterdam, comme Paris, est encore partiellement confiné. L'entretien avec le directeur du musée, Ronald Leopold, aura lieu par écran interposé. Cette conversation est déterminante. Lui seul peut m'accorder l'autorisation de passer une nuit dans l'annexe. Nous discutons de choses et d'autres, une façon de faire connaissance. S'il se réjouit de l'écho que rencontre encore l'histoire d'Anne Frank, le directeur regrette que cette adoration pour la jeune fille fasse de l'ombre à son œuvre, celle d'une autrice prodige. À ce propos, il n'a nullement l'intention de me soumettre à un questionnaire, mais Léopold aimerait savoir que représente la jeune fille pour moi. Je fais comme si mon projet était mu par quelque chose de rationnel. J'adopte un ton détaché. Je parle de mon travail, des jeunes filles qui sont au cœur de mes romans. Toutes se confrontent à l'espace qu'on leur autorise. Toutes aussi ont vu leurs propos réinterprétés, réécrits par des adultes. J'improvise. Je n'ose lui dire la vérité, craignant que Ronald Leopold me prenne pour une illuminée, obsédée par Anne Frank. Je ne peux lui expliquer que ce projet d'écriture est un désir que je ne comprends pas moi-même. Il me poursuit depuis qu'il s'est matérialisé il y a quelques semaines. Une nuit d'avril, 2 syllabes que je prononce peut-être dans mon sommeil surgissent de l'enfance. Anne, Frank. Je n'ai pas pensé à elle les jours précédents. Je n'ai rien lu à son sujet. Je me souviens à peine du journal. Son nom s'impose à la nuit. Anne Frank est l'objet de mon éveil. Le sujet que rien ne dissipe les jours suivants. Elle résonne avec quelque chose dont je n'ai encore conscience. Je ne peux pas avouer au directeur que je ne sais pas ce qu'elle est pour moi, mais que je dois écrire ce récit. Même au travers d'un écran, mon malaise doit être palpable. Ronald Leopold me rassure. Nul besoin de lui répondre tout de suite. Le soir même, je lui envoie un mail. Il y a certainement des raisons objective à mon envie de me lancer dans ce projet. Comme à quantité d'enfants, mes parents m'ont offert le journal. J'ai commencé à écrire pour faire comme elle. Ma mère a été cachée, enfant, pendant la guerre. Je suis juive. Mais je crois que tout ceci est sans importance. Ou du moins, ça n'est pas suffisant pour expliquer ma volonté d'écrire ce texte. Je termine mon message d'une pirouette en citant Marguerite Duras. Si on savait quelque chose de ce qu'on va écrire avant de le faire, avant d'écrire, on n'écrirait jamais, ce ne serait pas la peine. La réponse ne tarde pas. Ronald Leopold me propose de rencontrer virtuellement une universitaire aujourd'hui à la retraite. Laurine Nussmann est l'une des dernières personnes en vie à avoir bien connu les Frank, et c'est aussi une pionnière. Elle étudie le journal en tant qu'œuvre littéraire depuis les années 1990.
Si Lola Lafont s'interroge sur ses raisons d'écrire cette expérience, Anne Frank, elle, anticipe les réactions de lecteurs à la publication de son journal. Voici la lettre du 29 mars 1944. Cher Kitty, hier soir, le ministre Bolkestein a dit sur Radio Orange qu'à la fin de la guerre, on rassemblerait une collection de journaux et de lettres portant sur cette guerre. Évidemment, ils se sont tous précipités sur mon journal. Pense comme ce serait intéressant si je publiais un roman sur l'annexe. Rien qu'au titre, les gens iraient s'imaginer qu'il s'agit d'un roman policier. Non, mais sérieusement, environ 10 ans après la guerre, cela fera déjà sûrement un drôle d'effet aux gens si nous leur racontons comment nous, juifs, nous avons vécu, nous nous sommes nourris et nous avons discuté ici. Même si je te parle beaucoup de nous, tu ne sais que très peu de choses de notre vie. L'angoisse que ressentent les dames lors des bombardements. Par exemple, dimanche, lorsque 350 appareils anglais ont largué 500 000 de kilos de bombes au-dessus d'Izmudienne. la façon dont les maisons se mettent alors à trembler comme un brin d'herbe dans le vent, le nombre d'épidémies qui sévissent ici. De toutes ces choses dont tu ne sais rien, et il me faudrait passer la journée entière à écrire si je devais tout te raconter dans les moindres détails. Les gens font la queue pour se procurer des légumes et tout ce qu'on peut imaginer. Les médecins ne peuvent pas se rendre auprès des malades parce qu'on vole leurs véhicules à tout bout de champ. Les cambriolages et les vols sont innombrables, à tel point qu'on finit par se demander quelle mouche pique les Hollandais pour qu'ils soient devenus tout d'un coup aussi voleurs. Des petits-enfants de 8 et 11 ans brisent les fenêtres des appartements pour voler de tout sans distinction. Personne n'ose quitter son domicile pour 5 minutes, car quand on part, le contenu de l'appartement part aussi. Tous les jours, dans le journal, des annonces paraissent, promettant une récompense pour la restitution de machines à écrire, de tapis persans, de pendules électriques, d'étoffes, etc. On démonte les pendules électriques dans les rues, on défait les téléphones dans les cabines jusqu'au dernier fil. Le moral de la population ne peut pas être bon. Tout le monde a faim. Les rations de la semaine suffisent à peine pour tenir 2 jours, sauf celles d'ersatz de café. Le débarquement se fait attendre. Les hommes sont obligés de partir en Allemagne. Les enfants tombent malades ou sont sous-alimentés. Tous ont de mauvais habits et de mauvaises chaussures. Une semelle coûte 7,5 florins au marché noir. En plus, la plupart des cordonniers n'acceptent plus de clients. Ou alors il faut attendre 4 mois avant que les chaussures soient prêtes et elles ont souvent disparu entre-temps. Dans tout cela, une chose est bonne. Les actions de sabotage contre les autorités ne cessent de se multiplier en réaction à une nourriture de plus en plus mauvaise et à des mesures de plus en plus sévères contre la population. Tout le service du rationnement, la police, les fonctionnaires, ou bien sont solidaires pour aider leurs compatriotes, ou bien les dénoncent, et ainsi les font mettre en prison. Heureusement, il n'y a qu'un petit pourcentage de citoyens néerlandais du mauvais côté. Bien à toi, Anne.
Fête son 15e anniversaire. Mardi 13 juin 1944. Cher Kit, encore un anniversaire de plus. J'ai donc maintenant 15 ans. J'ai reçu pas mal de cadeaux. Les 5 livres de Springer, un assortiment de dessous, 2 ceintures, un mouchoir, 2 yaourts, un pot de confiture, 2 gâteaux au miel, petit format, un livre de botanique de la part de papa et maman, un bracelet en doublé de la part de Margot, un livre de la collection Patria offert par les Van Dan, du biomalt et des pois de senteur de Ducel, des bonbons de Mip, des bonbons et des cahiers de Bep et le Summum, le livre de Marie-Thérèse, et 3 tranches fines de fromage double crème de Kugler. De Peter, j'ai reçu un joli bouquet de pivoine. Le pauvre garçon s'est donné tant de mal pour trouver quelque chose, mais sans aucun succès. Le débarquement se déroule toujours aussi bien, en dépit du mauvais temps. Des innombrables orages, des averses et de la mer démontée. Churchill, Smuts, Eisenhower et Arnold se sont rendus hier dans des villages français conquis et libérés par les Anglais. Churchill était à bord d'un torpilleur qui bombardait la côte. Cet homme, comme tant d'autres, ne semble pas connaître la peur, comme je l'envie. De notre annexe forteresse, il nous est impossible de juger du moral régnant aux Pays-Bas. Assurément, les gens se réjouissent que l'Angleterre, cette tire au flanc, ait fini par retrousser ses manches. De l'injustice, de leur raisonnement, les gens ne se rendent pas compte quand ils répètent qu'ils ne veulent pas ici d'une occupation anglaise. Si on résume leur pensée, cela revient à dire que les Anglais doivent se battre, lutter et sacrifier leurs fils pour les Pays-Bas et les autres territoires occupés. Les Anglais n'ont pas le droit de rester aux Pays-Bas. Ils doivent offrir leurs plus plates excuses à tous les pays occupés. Ils doivent restituer les Indes à leurs premiers propriétaires et peuvent s'en retourner pauvres et affaiblis en Angleterre. Il faut être un pauvre idiot pour s'imaginer les choses de la sorte. Et pourtant, beaucoup de Hollandais se comptent parmi les idiots. Que serait-il advenu, je me le demande, des Pays-Bas et des pays voisins
si l'Angleterre avait signé avec les Allemands une paix si souvent proposée. Les Pays-Bas seraient devenus Allemands, et voilà tout. Tous les Hollandais qui méprisent encore les Anglais, qui insultent l'Angleterre et son gouvernement de vieux messieurs, qui traitent les Anglais de lâches et pourtant détestent les Allemands, on devrait les secouer très fort, comme on secoue un oreiller. Peut-être que leur cerveau embrouillé prendrait alors un meilleur pli. Les souhaits, les pensées, les accusations et les reproches me hantent l'esprit par milliers. Je me fais certainement pas autant d'illusions que les gens veulent le croire. Je connais mes innombrables torts et mes défauts mieux que quiconque. À une différence près, je sais également que je veux m'améliorer, que je m'améliorerai et que je me suis déjà beaucoup améliorée. Est-ce parce que je n'ai pas mis le nez dehors si longtemps que je m'enthousiasme pour tout ce qui a un rapport avec la nature ? Je me rappelle très bien qu'un magnifique ciel bleu, des chants d'oiseaux, le clair de lune et l'éclosion des fleurs ne pouvaient retenir mon attention pendant longtemps. Cet intérêt s'est transformé ici, à la Pentecôte par exemple, quand il faisait si chaud. Je me suis forcée à garder les yeux ouverts jusqu'à 11h30 afin de profiter une bonne fois toute seule de la lune en la regardant par la fenêtre ouverte. Malheureusement, ce sacrifice n'a abouti à rien puisque la lune rayonnait tant que je ne pouvais prendre le risque d'ouvrir la fenêtre. Une autre fois, il y a déjà un bon nombre de mois, je me trouvais là-haut par hasard alors que la fenêtre était ouverte le soir. Je ne suis pas redescendue avant que le moment d'aérer soit terminé. Le soir obscur et pluvieux, l'orage, la course des nuages me tenaient sous leur empire et pour la première fois depuis un an et demi, j'avais revu la nuit en tête à tête. Après ce soir-là, mon désir d'assister au même spectacle a pris le pas sur ma peur des voleurs d'une maison noire pleine de rats et d'une agression. Je descendais toute seule pour regarder par la fenêtre du bureau privé et de la cuisine. Nombreux sont ceux qui admirent la beauté de la nature, qui dorment parfois à la belle étoile, qui dans les prisons ou les hôpitaux attendent avec impatience le jour où ils pourront profiter à nouveau de la nature en toute liberté. Mais peu de personnes se sentent avec toute leur nostalgie aussi coupées et isolées de ce qui est également offert aux pauvres et aux riches. Je ne me fais pas d'idée quand je dis que la vue du ciel, des nuages, de la lune et des étoiles m'apaise et me donne espoir. Ce remède est bien plus efficace que la valériane ou le bromure. La nature me rend petite et me donne le courage de faire face à tous les coups durs. Le sort a voulu que je n'aie le droit de voir la nature qu'à de rares occasions, à travers les fenêtres couvertes d'une épaisse couche de poussière et voilée de rideaux sales, et je n'éprouve plus aucun plaisir à regarder au travers. La nature est la seule chose que l'on ne peut remplacer par un ersatz. À plusieurs reprises déjà, une des nombreuses questions que je me pose est venue tourmenter mes pensées. Pourquoi par le passé, et souvent aussi maintenant, la femme a-t-elle occupé une place beaucoup moins importante que l'homme dans la société ? Tout le monde peut dire que c'est injuste, mais cela ne me satisfait pas. J'aimerais tant connaître la cause de cette grande injustice. On peut concevoir que l'homme, grâce à sa grande force physique, a depuis le départ exercé sa domination sur la femme. L'homme gagne sa vie, l'homme engendre les enfants, l'homme a le droit de tout faire. Il faut dire que les femmes sont idiotes de s'être tranquillement laissées imposer cette règle jusqu'à récemment, car plus celle-ci se perpétue à travers les siècles, plus elle s'enracine. Heureusement, les femmes ont quelque peu ouvert les yeux grâce à l'école, au travail et au développement. Dans beaucoup de pays, les femmes ont obtenu l'égalité des droits. Beaucoup de gens, des femmes surtout, mais aussi des hommes, s'aperçoivent maintenant à quel point cette division du monde, en place depuis si longtemps, était injuste. Et les femmes modernes exigent des droits pour parvenir à une indépendance totale. Mais cela ne suffit pas. Le respect de la femme, voilà ce qu'on attend encore. De manière générale, dans toutes les parties du globe, l'homme suscite l'admiration. Pourquoi la femme n'a-t-elle pas le droit de bénéficier en priorité d'une part de cette admiration ? Les soldats et les héros de la guerre sont honorés et fêtés. Les inventeurs jouissent d'une renommée éternelle. Les martyrs sont vénérés. Mais de l'humanité tout entière, combien sont-ils ceux qui considèrent la femme aussi comme un soldat ? Dans le livre « Combattant de la vie », un passage m'a beaucoup frappé, qui dit à peu près que les femmes endurent en général plus de souffrances, de maladies et de misères, ne serait-ce qu'en mettant leurs enfants au monde que n'importe quel héros de guerre. Et que récolte la femme pour toute la douleur qu'elle a subie ? On la relègue dans un coin si elle sort mutilée de l'accouchement. Bientôt, ses enfants ne lui appartiennent plus et sa beauté a disparu. Les femmes sont des soldats qui luttent et souffrent pour la survie de l'humanité. Beaucoup plus braves, plus courageux que tous ces héros de la liberté avec leur grande gueule. Je ne veux absolument pas dire que les femmes doivent s'opposer à mettre des enfants au monde. Au contraire, la nature est ainsi faite et c'est sans doute très bien comme cela. Je condamne simplement les hommes et tout le fonctionnement du monde qui n'ont jamais voulu prendre conscience du rôle important, difficile, mais en fin de compte, magnifique, lui aussi, que joue la femme dans la société. Paul de Cruyff, l'auteur du livre mentionné ci-dessus, reçoit mon entière approbation quand il dit que les hommes doivent apprendre qu'une naissance a cessé d'être quelque chose de naturel et de simple dans les régions du monde que l'on appelle civilisées. Les hommes ont beau jeu, ils n'ont pas et n'auront jamais à supporter les souffrances que connaissent les femmes. Je pense que la conception selon laquelle la femme a le devoir de mettre des enfants au monde se modifiera au cours du prochain siècle et fera place à du respect et de l'admiration pour celle qui, sans renâcler et sans faire de grandes phrases, prend de tels fardeaux sur ses épaules. Bien à toi, Anne M. Frank. Which started the whole world crying, but I didn't see that the joke was on me. Oh no, I started to cry. Ma grand-mère Ida parlait trois langues, le polonais, le yiddish, le français. C'était une survivante qui conjuguait le verbe lutter à l'impératif. Elle ne manquait jamais de le rappeler. Il fallait, il faudrait combattre si d'aventure ça recommençait. Mais qu'elle me raconte une émission de radio consacrée à un écrivain ou à un metteur en scène et sa voix se métamorphosait. C'était l'intonation émerveillée d'une ancienne jeune fille née à Lublin qui avait désiré, voulu, rêvé, mais qui n'avait rien pu, rien eu. Ida n'a eu le temps et le loisir d'apprendre à lire et à écrire le français qu'à 60 ans passés. Les cartes postales qu'elle m'adressait étaient signées de son prénom, mais écrites par mon grand-père. Elle éprouvait de la gêne à me dévoiler son écriture malhabile d'enfant. Mais si elle n'écrivait pas, elle entendait tout à la littérature. C'est une bibliothèque de décors télévisés qui l'y a invitée, celle de l'émission Apostrophe. Bernard Pivot régnait sur les vendredis soirs de ma grand-mère. Il mettait fin à toute conversation téléphonique. « Je raccroche, il y a Apostrophe !» Certains objets sans valeur nous sont intimement précieux. Ils témoignent d'un être, d'un amour, d'un lieu qui n'est plus. On ne peut supporter l'idée de les perdre, mais on a du mal à les regarder, tant leur pouvoir d'évocation est puissant. On les conserve au secret, dans une boîte, une enveloppe, en lisière de mémoire. Que fallait-il faire de ce qui nous était légué? Comment marcher sur des traces sans les effacer? Le vide du début de la nuit s'est mué en une brève quiétude, une parenthèse. J'étais au bord de l'abîme, mais je n'avais plus peur. Je me suis assise à même le sol de cette chambre. J'ai ouvert mon cahier et sans réfléchir, j'ai écrit un nom et un prénom. Deux syllabes. Dans la chambre désolée d'une jeune fille dont la terre entière connaissait le nom, s'est glissée la silhouette d'un jeune homme inconnu de vous. Il a 15 ans pour l'éternité. Il pose sur un photomaton que je garde rangé avec ma médaille d'Anne Frank. Le parallèle entre ces deux œuvres, écrites à 80 ans d'intervalle, souligne la nécessité de ne jamais oublier. Écrire, c'est témoigner, restaurer au travers des mots l'existence de ceux qui n'ont pas survécu. Nous vous souhaitons une bonne lecture. Cette émission a été préparée par Guylaine et Anne. Vous avez entendu des extraits de la musique traditionnelle klezmer par les Flamands Noirs et Vasilena Seramivmova, ainsi que « I Started a Joke » par les Bee Gees.
Nous remercions Claude Michel pour le montage. À bientôt.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr. Vous nous y retrouverez.
Je reviens pas, ça fait 6 ans.
6 ans quoi ?
Radiovision, le concours de chansons radio. Alors, si vous êtes chanteuse ou chanteur, inscrivez-vous sur radiovision.fr.
Non, mais t'as raison, Sonia. Mais vous n'avez que jusqu'au 18 avril pour tenter de gagner votre place et passer à la radio.
Alors, inscrivez-vous dès maintenant sur radiovision.fr.